Victor Hugo, c'est un grand écrivain, c'est un grand dessinateur, et on sait moins que c'est aussi un grand décorateur.
Se mêle de la spiritualité, se mêle évidemment de sentiments esthétiques, quelque chose de romantique, enfin quelque chose de multiforme.
Se sent militant de montrer l'âge d'or ou les âges d'or de cette civilisation islamique.
J'ai bien aimé l'histoire et j'aime bien les châteaux, les murs et les fresques.
Il y a beaucoup de culture.
Oui, c'est ma première visite, c'était très bien.
Va mon ami, va, la lune se lève.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Art Interview sur Art District. C'est Julie Chaise-Martin et comme à chaque fois dans cette émission, je pars à la rencontre de ceux qui font l'actualité culturelle. Conservateurs, artistes, mécènes, passionnés et amateurs, ils nous parlent tous de leurs événements, leurs expositions et leurs émotions.
De la Comédie Française, une conférence Enjeux et modalités de développement d'équipes en touristique marchand au sein des sites patrimoniaux en France, proposée par le ministère de la Culture, le ministère de l'Économie et des Finances et la Caisse des dépôts.
Et oui, c'est le grand rendez-vous des acteurs du patrimoine culturel. Chaque mois de novembre, ils se retrouvent tous sur le salon du patrimoine culturel au Carrousel du Louvre. Cette année, du 2 au 5 novembre 2017, sur le thème « Tourisme et patrimoine ». Conférences, rencontres, échanges, débats, le secteur met en avant ici ses développements, ses nouveautés, les métiers d'art évidemment, et de nombreuses associations qui œuvrent pour la protection et la valorisation du patrimoine. Je vous emmène y faire un petit tour à la rencontre de 5 acteurs. On commence par un acteur public, le service patrimoine de la ville de Paris.
Alors, bonjour Pierre-Henri Colombier, vous êtes sous-directeur du patrimoine et de l'histoire à la ville de Paris. Ici, on est au salon du patrimoine culturel au Carrousel du Louvre. Sur votre stand, qu'est-ce que vous présentez ici? Quels sont les grands projets que vous présentez?
Bonjour. Alors, on a voulu sur notre stand, au-delà du fait qu'on souhaitait aborder un certain nombre de thématiques très transversales, comme le numérique, comme le patrimoine contemporain, comme le mécénat, etc. On a voulu à la fois emmener le visiteur dans une déambulation assez emblématique autour de 54 lieux, c'est la frise qui est au-dessus du stand, 54 lieux qui sont répartis dans les 20 arrondissements de la capitale. Parce qu'on sait que le patrimoine qui appartient à la ville de Paris, il est parfois méconnu. On ne sait pas forcément qu'il est extrêmement polymorphe, qu'il est très divers. Et puis on a voulu réaliser un certain nombre de focus sur des opérations très emblématiques en relation avec le thème du salon, puisqu'on considère que bien évidemment le patrimoine qui appartient à la ville est un enjeu primordial de son attractivité touristique. Nos églises, par exemple, sont des musées à ciel ouvert absolument exceptionnels, abritent nos églises, nos temples et nos synagogues, abritent un patrimoine d'une très 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 grande valeur et qui est souvent méconnu, à la fois des touristes, mais ce qui est plus malheureux également des Parisiennes et des Parisiens.
Alors par exemple, on va citer quelques exemples, un très bel exemple là, que vous présentez sur votre stand, c'est effectivement la restauration du cœur de l'église Saint-Germain-des-Prés, notamment des décors peints. Alors ça a été une révélation colorée.
Alors Saint-Germain-des-Prés, c'est un exemple qui est emblématique à trois titres. D'abord parce que nous avons conduit des fouilles qui ont été préalables à la restauration, qui ont permis de découvrir des choses exceptionnelles. On s'y attendait, mais ça a été tout à fait exceptionnel et on en présente.
Toujours un enrichissement aussi finalement.
Toujours.
De faire des restaurations, on apprend aussi sur l'histoire.
Absolument, absolument. Donc des fouilles archéologiques, et ce qui permet sur le stand de mettre en valeur le service de l'archéologie. C'est un chantier qui est emblématique, comme vous le disiez, parce que ça permet de restituer une église qui était très noire et qui est maintenant complètement flamboyante avec un décor qui est absolument exceptionnel. Et puis enfin, et peut-être surtout, c'est une opération qui est très emblématique parce qu'elle est intégralement mécénée par le Fonds pour le rayonnement de Saint-Germain-des-Prés. Hormis la maîtrise d'œuvre qui est évidemment qui demeure à la charge de la ville de Paris, la conduite de l'opération qui demeure à la charge de la ville de Paris puisque nous sommes maîtres de l'ouvrage, mais cette opération est mécénée et nous accompagnons évidemment le mécène dans la recherche de financement, dans la publicité faite autour de l'opération.
Qui est le mécène?
C'est le Fonds pour le rayonnement Saint-Germain-des-Prés. Mmh.
Voilà. Donc, quelles sont à peu près justement la part de fonds publics et de fonds privés dans ce genre de grands projets patrimoniaux?
Ah ben, d'habitude, c'est 100% de fonds publics, mais là, en l'occurrence, pour...
Jamais d'appel à des mécènes privés.
Si, bien sûr, mais c'est très compliqué de vous donner une part très précise, parce que ça dépend de l'intérêt des mécènes. Il y a des mécènes qui vont s'intéresser à des choses précises, d'autres non. Vous savez, quand, par exemple, dans une église, on refait le circuit électrique, en général, ça n'intéresse pas beaucoup les mécènes.
C'est difficile de capter, de sensibiliser des mécènes sur le patrimoine,
non, c'est
de
pas
manière générale.
C'est pas difficile, mais il est parfois pas aisé d'arriver...
Parce qu'on a des grands exemples, comme à Versailles, avec
tout
Vinci,
à fait.
Par exemple.
Tout à fait, mais il est parfois pas aisé d'arriver à l'orienter sur ce que nous, on va considérer comme étant prioritaire. La vraie question, elle est souvent là. On a énormément de sollicitations, et on en est très heureux, de mécènes qui viennent nous voir en disant, voilà, mécènes... institutionnel ou non, même privé. Hein. Il dit, voilà, moi je voudrais restaurer tel tableau, tel décor, etc. Et nous, parfois, on a le sentiment d'un peu les décevoir, parce qu'on leur dit, oui, mais nous, notre priorité, c'est pas ça. C'est le clos et couvert, ce sont les façades, ce sont les circuits, les installations électriques, etc. Alors évidemment, on peut comprendre que ce soit pas glamour et que c'est pas forcément sexy. Bon, en général, on arrive à s'entendre quand même. On ne refuse pas un mécénat, parce qu'on ne se refuse pas un mécénat.
La présence de ce stand ici, pendant 4 jours, à quoi ça... vous sert concrètement? Qu'est-ce qui se passe ici? Vous faites des rencontres, des échanges avec d'autres acteurs?
Alors ça sert à plein de choses. Ça sert à rappeler aux Parisiennes et aux Parisiens qu'ils sont copropriétaires de tout ça. Ça, c'est très important. Et que ce patrimoine, c'est celui de Paris, que la collectivité parisienne a un véritable devoir à l'endroit de ces patrimoines, qui est un devoir d'entretien, de valorisation, de conservation, etc. Ça, c'est le premier point, il est fondamental. On est une collectivité publique, donc évidemment, nous, on ne fait que passer, mais notre responsabilité, elle est très importante, et on l'exerce pour les habitantes et les habitants de Paris. Le second point, c'est que ça nous permet évidemment de nouer des contacts, et notamment... alors on les connaît tous, vous en doutez, mais avec les artisans d'art, avec les autres collectivités, avec des éditeurs, avec des mécènes potentiels qui fréquentent beaucoup ce salon et qui vont venir nous voir en disant « tiens, voilà, moi, etc., je suis mécène ». Surtout qu'aujourd'hui, la réglementation sur le mécénat évolue avec une évolution très sensible de l'ISF. Donc on est très sollicités là-dessus par des mécènes qui sont assez pressés par le temps et qui veulent pour beaucoup d'entre eux intervenir avant la fin de l'année 2017. Et puis ça permet également... et ce n'est pas le moindre des intérêts d'un stand comme celui-là, ça permet également de valoriser les métiers, de valoriser les agents qui sont tous là, les conservateurs, les architectes, les ingénieurs, et de valoriser les métiers, l'expertise exceptionnelle qui est détenue par la ville de Paris. Dans tous ces métiers-là, de conduite d'opération, de connaissances, nous avons, nous, Madame Org, bah cette Madame Org, elle est allée suivre une formation d'un an pour se former sur ce qu'est l'or, comment ça fonctionne, son histoire, etc. Nous avons des architectes partout. Nous avons
des métiers spécialisés aussi.
Oui, absolument spécialisés parce que...
qui n'existent nulle part ailleurs, à part dans ce secteur du patrimoine.
Oui, ils ne sont pas beaucoup. Ils sont pas beaucoup, oui. Et ça, c'est important pour la ville, de valoriser cette expertise-là et de rappeler aux agents, en tout cas, que d'abord, ils ont un rôle très important à jouer et ensuite, ils détiennent un savoir-faire et une expertise... tout à fait exceptionnel. Et c'est d'ailleurs ce que dit Véronique Levieux, qui est l'adjointe à la maire de Paris en charge du patrimoine, dans le communiqué de presse qu'elle a publié, en précisant que c'est une façon de rendre hommage aux savoir-faire qui sont assez uniques quand même, et dont je pense qu'on peut, avec humilité, mais dont on peut être assez fier.
Alors, en 2018, c'est quoi les grands projets, si on peut juste avoir une petite...
Non, alors en 2018, nous, on finit Saint-Eustache, premier trimestre. Premier trimestre, on finit également Saint-Augustin. Alors, je vous donne les projets très emblématiques. On poursuit la Madeleine et on lance un chantier très très important qui est celui de la Trinité dans le 9e arrondissement, côté de la gare Saint-Lazare, qui est un chantier très long, extrêmement coûteux et très important par son ampleur.
Et grosso voilà. Modo, le budget, il s'estime c'est par an, par...
Alors, il ne s'estime pas par an. Le budget, il est arrêté par mandature, dans le contrat de mandature. La ville a décidé de consacrer en charge, supportée par la ville, 80 millions d'euros sur la mandature, qui se répartissent entre les projets, je dirais, récurrents, qui est qui est l'entretien majeur un peu courant, et les très grosses opérations dont je viens de parler, par exemple. Et nous souhaitons porter cet effort à 110 millions d'euros avec l'aide de l'État. Il est important de citer l'État, puisque l'État participe cofinance nos projets à partir du moment où nos bâtiments sont classés, et ils le sont quasiment tous, et puis également par le mécénat, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, et également par les pages publicitaires, parce que c'est aussi une forme nouvelle pour nous, de cofinancement et de participation à nos opérations.
Donc ça, ce sont les grandes affiches
sur les trois églises actuellement, églises, Madeleine, Saint-Augustin.
Ils font grincer des dents certaines associations.
Oui, mais pas tant que ça. Mm. Pas tant que ça. Et alors on s'attendait, je ne vous le cache pas, à ce que ça soit plus compliqué à porter. Et en fait, les garde-fous ont été tellement verrouillés, et notamment ces opérations ont été tellement anticipées, et en particulier avec le diocèse, qui a été main dans la main avec nous sur une opération, sur ces opérations-là, que ça s'est globalement, nous on considère, très très bien passé, et ça n'a pas grincé tant que ça. Chaque fois que des visuels étaient susceptibles de poser problème, on a stoppé avant qu'ils soient affichés. On a un mécanisme de validation qui est un mécanisme extrêmement bordé. Il suffit qu'un acteur décide que ça n'ira pas pour qu'on le fasse, pour qu'on annule la campagne. Et ça nous est arrivé quelques fois et ça se passe très bien. Voilà. On apprend, hein. Mais je pense que c'est une, voilà, c'est très nouveau en France, hein, les Italiens ont plein d'avance sur nous, hein, dans ce domaine, mais ils ont fait des erreurs. Et d'ailleurs,
prenez exemple alors un petit peu.
Oui, y compris on tient compte de leurs erreurs. Parce que par exemple, les Italiens se sont retrouvés il y a quelques années avec des petites culottes sur le dôme de Milan. C'était un annonceur de... Alors, c'était pas de la lingerie, mais c'était du prêt-à-porter, je pense, une marque américaine, hein, qui est assez connue. On a failli avoir la même chose. Mais voilà, comme on ne veut pas sombrer sur ce type d'écueil, on avait mis des garde-fous.
Bon, bah merci beaucoup Pierre-Henri Colombier de nous avoir parlé donc des dessous, hein, on peut peut-être faire ce petit jeu de mots pour conclure les coulisses du patrimoine parisien. Merci beaucoup à vous.
Je vous en prie, bon salon.
On quitte le stand de la ville de Paris, on fait quelques pas pour rejoindre, pas très loin, le stand des sites et cités remarquables de France.
Marie-Lise Ortiz, directrice de sites et cités remarquables de France. Vous avez un stand ici au Salon du patrimoine culturel au Carrousel du Louvre pendant 4 jours. Présentez-nous un petit peu ce stand et puis surtout votre rôle ici, enfin sur le territoire, parce que vous êtes sur tout le territoire de France en fait. Hein.
Alors tout à fait, notre association est une association nationale qui regroupe quelques 220 membres, soit 1500 communes sur toute la France. Nos communes sont des communes qui ont la particularité d'être labellisées ville ou pays d'art et d'histoire ou d'avoir un site patrimonial remarquable, c'est-à-dire un secteur protégé sur leur territoire. Ce sont des communes donc qui s'appuient énormément sur le patrimoine pour le développement économique de leur territoire. Et nous sommes ici donc à la fois pour les représenter. Nous sommes accompagnés de 4 collectivités membres qui sont aussi présentes avec nous, Semur en Auxois, Pézenas, Bastia et Autun. Et l'objectif d'être sur le salon, c'est aussi d'avoir une lisibilité au niveau national, de rencontrer des partenaires, de nouer des partenariats aussi nouveaux, de créer du lien entre patrimoine et métiers d'art, ce qui nous semble extrêmement aussi important. Et c'est vrai que depuis plusieurs années, on vient, on en est ravis, et en plus c'est un salon qui se développe énormément d'année en année, et pour nous c'est véritablement un temps fort, un rendez-vous important.
Alors le thème cette année justement, c'est tourisme et patrimoine, rechercher voilà, des liens, des connexions, ce qui fait que le patrimoine aussi ramène les touristes, et que les touristes aime le patrimoine, en tout cas on l'imagine, mais est-ce que vous diriez qu'il y a une sorte d'inégalité sur le territoire quand même?
Ah, c'est une très bonne question. Alors le thème nous touche particulièrement parce que notre président Martin Malvy avait été chargé par Laurent Fabius de faire un rapport sur justement la valorisation du patrimoine dans le tourisme et comment le patrimoine permet de développer aussi l'attractivité sur les territoires de façon peut-être plus égalitaire, parce que ce qu'on se rend compte c'est qu'effectivement le tourisme vient avec pour 50% des touristes étrangers une envie de culture et de patrimoine, mais après ces touristes on va les trouver surtout en Île-de-France, dans le sud sud de la France, sur quelques grands sites les plus attractifs, et beaucoup moins sur d'autres territoires. Alors les métropoles tirent assez bien leur épingle du jeu, on voit un développement aussi du tourisme urbain, culturel, mais par contre pour les autres territoires, plus petits, peut-être moins accessibles, c'est plus complexe. Et pour nous, c'est vrai que c'est un enjeu de faire en sorte que le patrimoine puisse donner envie de venir sur ces territoires, de travailler donc à une vision un peu plus égalitaire de la manne touristique sur l'ensemble des territoires. Sans oublier quand même qu'on parle beaucoup de touristes internationaux, mais ça correspond effectivement à un chiffre important, on est sur 87 millions cette année, mais il y a aussi les touristes français qui font du tourisme de proximité, qui visitent, et donc pour qui aussi on doit développer les propositions. Et on se rend compte que sur le territoire, il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de propositions. Et là, d'être aussi au salon, c'est l'occasion aussi de voir ces différentes propositions qui sont menées au travers de différentes villes, au travers de labels, au travers de réseaux.
Est-ce que vous constatez, depuis que l'association existe, une plus forte appétence aujourd'hui du touriste pour le patrimoine culturel ?
Oui, je crois qu'on peut le dire, effectivement, le touriste s'intéresse beaucoup au patrimoine. On le voit aussi au niveau des journées du patrimoine qui ont des fréquentations très très fortes. L'appétence, elle va vers le patrimoine, mais c'est vrai que ce que le touriste attend aussi, c'est qu'on lui raconte une histoire. Et donc, il faut aussi faire vivre ou le présenter, ce patrimoine, de façon à ce que le touriste vive son rêve, en fait. Sans que ce soit le montage, tout un montage scénographique, mais sous différentes manières. Et il faut que chaque présentation soit spécifique.
Du coup, vous travaillez à ça avec les villes, c'est-à-dire est-ce que vous leur donnez des outils justement pour transmettre la mémoire du patrimoine et son histoire ?
Alors, nous, notre rôle, il est d'être une plateforme pour nos collectivités, effectivement, de produire des outils. Alors, on a beaucoup travaillé sur les outils de protection, sur les secteurs protégés, sur la sensibilisation, la formation, aussi bien des élus que des techniciens, qu'ils soient des collectivités ou des ministères. Donc, c'est notre rôle.
Expliquer ce qu'est un monument historique.
Pas seulement le monument, mais la ville.
La
ville dans son ensemble, les secteurs qui sont importants, à la fois des fins touristiques, mais aussi beaucoup et prioritairement pour les habitants, puisqu'il s'agit d'habiter dans ces villes.
Ça peut être aussi contraignant, c'est-à-dire que le revers de la médaille, on peut dire que c'est une zone protégée, mais du coup, il y a effectivement des contraintes, on ne peut pas construire tout à fait ce qu'on veut.
Oui.
On ne peut pas forcément faire évoluer la ville dans un sens si on avait cette envie-là.
Vous faites l'avocat du diable, là. Moi, je ne parle pas de contraintes, je parle plutôt d'ambition. Hein, c'est l'ambition d'avoir une ville de qualité, un cadre de vie de qualité. Ça a quelques obligations qui sont celles aussi. Vous savez, la contrainte, ça amène l'intelligence aussi souvent. Donc, ça amène à faire des projets intéressants, à réfléchir autrement. Mais il faut se dire que lorsque l'on détruit ses patrimoines, on ne les reconstruira jamais. On ne fait pas de construction à l'identique, c'est faux. Ça n'existe pas. Donc, ces patrimoines, il faut les conserver et les faire évoluer. Et il est évident qu'on y vit d'une façon différente qu'il y a un siècle, donc il faut aussi construire cette évolution tout en préservant les qualités architecturales du bâti. Ça veut dire réfléchir.
Ça veut dire que les villes de pays d'art et d'histoire se portent mieux que d'autres. Enfin, je veux dire, elles ont réussi finalement à allier ce côté valorisation, protection du patrimoine avec la vie du quotidien.
J'ai envie de dire qu'elles se portent pas plus mal que les autres et que ce n'est pas parce qu'on a des contraintes qu'on est plus en difficulté que les autres villes, parce qu'il y a d'autres villes qui n'ont pas d'outils de préservation et c'est pas pour ça qu'elles tirent mieux leur épingle du jeu alors qu'elles sont chargées de démolir, d'enlaidir leur cadre de vie.
Est-ce que les villes pays d'art et d'histoire attirent plus les mécènes ? J'imagine que oui.
Alors elles peuvent les attirer, en tout cas il y a des démarches qui sont faites dans ce sens-là. Les villes cherchent effectivement les outils pour valoriser leur patrimoine, cherchent les partenariats et on est là aussi un peu pour cela, pour monter ces partenariats.
Et c'est aussi l'idée de peut-être construire des idées nouvelles autour de comment je reconvertis un monument du patrimoine, c'est-à-dire
alors,
intégrer peut-être la vie économique
complètement
à l'intérieur du bâti et du...
Complètement. Hein, vous avez l'exemple de Sedan, qui est un exemple dont on parle régulièrement, mais c'était un château fort, le plus grand château d'Europe, château fort d'Europe, qui était en très grosse difficulté, qui a été reconverti en un hôtel cathédrale et qui a très bien réussi sa reconversion. Donc effectivement, on peut inscrire l'économie dans le patrimoine et c'est important de le faire.
Et ça, vous avez beaucoup d'exemples dans les pays d'art, pays de villes d'art et d'histoire.
En tout cas, oui, il y a des exemples. Vous avez les centres culturels de rencontre. Vous avez beaucoup d'outils qui ont été montés dans des édifices patrimoniaux, dans des sites patrimoniaux. Oui, il y a des possibilités de faire les choses.
Merci beaucoup.
Ben, je vous en prie.
Allez, on reste encore un peu sur la notion de territoire et de ville et l'on entre sur le stand des petites cités de caractère de France qui, elles aussi, veulent tirer leur épingle du jeu.
Donc Laurent Mazurier, directeur de l'association Petites Cités de Caractère de France.
Dans les toutes petites cités de caractère de France, c'est quoi exactement ?
C'est-à-dire qu'on est vraiment et complètement complémentaire avec le réseau des villes d'art et d'histoire, dans le sens où eux s'intéressent aux villes importantes et nous aux petites villes. On est sur nous la tranche de population entre 2000 et 10 000 habitants.
Quelle est votre action, votre rôle auprès de ces villes pour valoriser donc leur patrimoine, j'imagine ?
Alors, le réseau des petites cités de caractère regroupe aujourd'hui environ 150 communes qui ont toutes plusieurs points communs. D'une part, d'avoir un patrimoine remarquable, mais aussi et surtout de souhaiter construire leur avenir à partir de ce patrimoine. On est dans des communes qui ont un héritage, une histoire. Elles ont été importantes, elles le sont parfois encore, elles le sont parfois moins, mais toutes ont hérité de ce temps où elles étaient importantes d'un patrimoine remarquable. Et il y a toujours dans nos communes la volonté de mettre ce patrimoine au cœur de la réflexion sur l'avenir que l'on souhaite construire dans les communes.
Là, évidemment, on est aussi sur la question du tourisme. L'attractivité de ces communes, j'imagine, est un point important pour vous en termes touristiques. Est-ce qu'il y a des développements à ce sujet, des idées qui émergent ?
Alors, vous avez prononcé le mot qui est important, c'est attractivité. C'est-à-dire que derrière toutes ces actions qui sont conduites sur le patrimoine de nos communes, on souhaite qu'elles deviennent attractives. Attractives pour attirer des habitants, pour attirer des entreprises, pour attirer des commerces, pour attirer des artisans, etc. Et parce qu'une commune va être attractive, elle va aussi l'être pour le tourisme. Donc il s'agit à un moment aussi de regarder sa cité différemment, avec l'œil du touriste, non pas la personne qui vient chaque jour vivre dans cet espace, mais qui va y venir une fois, qui va souhaiter faire une expérience, vivre une expérience de découverte du patrimoine. Donc il faut aussi adapter sa cité pour ce public-là, effectivement, ensuite valoriser ses atouts. Et tout un travail est fait dans notre réseau sur le visible, évidemment, découvrir le patrimoine bâti, mais aussi l'invisible. Derrière ce patrimoine, quelle est notre histoire de cité ? Que racontent nos pierres, nos monuments ? Et tout ce qui est lié à la culture immatérielle, parfois de la gastronomie, des métiers, des savoir-faire, des personnages illustres, des contes, des chants, etc. etc.
Donc vous, en tant qu'association, Petite Cité de Caractère, aider les communes sur la communication, vous leur apportez des outils de médiation. Comment ça se passe concrètement ? Sur quel point vous êtes actif auprès de ces petites communes ?
Alors nous avons une organisation un petit peu particulière, puisque nous avons des réseaux départementaux régionaux. Donc à l'échelle de ces associations départementales régionales, Petite Cité de Caractère en Nouvelle-Aquitaine, Petite Cité de Caractère en Bretagne, Petite Cité de Caractère en Grand Est, nous avons des vraies dynamiques d'action et de moyens qui sont mutualisés pour travailler sur le patrimoine. Et depuis une dizaine d'années, toutes ces associations départementales et régionales se sont regroupées sous la forme d'une fédération. Et l'association Petite Cité de Caractère de France porte ainsi un certain nombre de missions en partant d'un principe tout simple. On sera parfois plus performant pour conduire certaines missions quand on les conduit au niveau national. Et notamment tout ce qui est touristique, tout ce qui est communication touristique. Aujourd'hui, tous les réseaux, toutes les communes sont sur la même charte graphique, le même logo. Et on travaille avec les communes sur l'accueil du du touriste dans les petites cités de caractère, avec à la fois des points communs. Un visiteur va retrouver des éléments qui vont le rassurer d'une commune à l'autre, des clés de lecture, des clés découvertes, mais en même temps que ce modèle national ne tue pas l'initiative locale et que chaque commune affirme son histoire, son positionnement, ses spécificités.
Alors, une toute dernière question, quand on parle de patrimoine, on pense souvent évidemment au patrimoine bâti, mais il ne faut pas oublier le patrimoine vivant, voire le patrimoine immatériel qui fait aussi l'âme, j'imagine, de ces petites communes de caractère. Et je pense que c'est aussi un des axes que vous voulez mettre en valeur. Je pense par exemple à la gastronomie, à l'artisanat.
Derrière le patrimoine, souvent on a l'image effectivement des monuments, des vieilles pierres. Et depuis quelques années, il y a tout un courant, et qui d'ailleurs n'est pas propre à nous, hein, qui est vraiment même international, qui dit le patrimoine c'est aussi les hommes et l'histoire des hommes qui vivent dans ces lieux-là. Donc c'est un gros travail qui est entrepris avec plein d'entrées différentes sur l'idée de dire allons chercher auprès de l'habitant, du citoyen dans sa commune, son histoire et déjà ce qui fait patrimoine pour lui. Et effectivement, quand on va à la rencontre des habitants, on a une toute autre lecture de ce qui fait patrimoine et on va trouver des histoires de vie, des histoires sociales dans certaines villes industrielles, des histoires effectivement de gastronomie, des histoires de métiers, des histoires également de culture, d'oralité, etc., etc. Et pour nous, il s'agit bien de proposer à la découverte du visiteur, non pas le patrimoine, mais les patrimoines d'une commune. Et là, on a un champ de possibles infini parce que les nouvelles technologies nous permettent de faire du virtuel, de travailler sur l'oralité, de travailler comme ça sur des outils de découverte extrêmement divers et variés. Et donc avec une vraie, et c'est le mot aujourd'hui, une vraie expérience de découverte chaque fois qu'on visite une petite cité de caractère.
Et peut-être des applications mobiles du coup ?
Tout à fait.
C'est quelque chose qui existe déjà ?
C'est quelque chose qui existe déjà pour retrouver certains justement patrimoine immatériel, par exemple autour de l'oralité. Il y a beaucoup de communes qui ont travaillé là-dessus pour, avec tout ce qui est la réalité augmentée, pouvoir redécouvrir un espace de vie ou un monument qui aujourd'hui est ruine, voir comment il était à une époque où il était bâti, etc., etc. Donc c'est fait partie effectivement des outils, mais ce sont des outils, c'est vraiment le projet global, et avec quand même toujours une préférence pour l'humain, parce que c'est toujours beaucoup plus intéressant d'être accueilli par quelqu'un qui vit dans la commune, qui va raconter le patrimoine de la cité où il vit, plutôt qu'à un moment de n'avoir que des outils numériques.
Merci à vous.
Mais je vous en prie.
Quelques stands plus loin, on va s'intéresser à la protection juridique du patrimoine avec une association particulièrement active sur le terrain de la législation et dotée d'une très longue histoire, la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, qui se fait aussi appeler Sites et Monuments.
Alors, je suis Julien Lacaze et je suis vice-président de Sites et Monuments.
Cité Monument, c'est une association, une des plus vieilles associations, je crois.
Exactement. Alors, Cité Monument, c'est la plus ancienne association de protection du patrimoine qui a été fondée l'année de la loi 1901. Et donc, on est reconnu d'utilité publique depuis 1937 et agréé pour la protection de l'environnement depuis 1978.
Alors concrètement, vous intervenez comment ? Quel est votre rôle ? J'imagine depuis toutes ces années, vous avez une expertise assez importante.
On a effectivement pas mal de recul. Alors on s'intéresse à la fois au patrimoine naturel et bâti, et on commence à s'intéresser au patrimoine mobilier. Notre démarche, c'est une démarche qui est beaucoup fondée sur le droit. Alors on fait donc pas mal de lobbying, notamment un lobbying législatif là, dans le cadre de la dernière loi patrimoine, la loi LCAP là, de juillet 2016. Donc là voilà, on a pu faire passer au total 21 amendements voilà, pour essayer un petit peu de muscler cette loi et voilà, de lui donner plus de mordant sur la réalité patrimoniale. Et on fait beaucoup d'actions en justice, ça c'est un petit peu notre spécificité, dans, je dirais, à peu près tous les domaines. On a beaucoup de contentieux éoliens, malheureusement on aimerait en avoir moins, mais c'est vrai que ça c'est absolument incontournable aujourd'hui. On aimerait justement que les choses soient mieux cadrées en amont et qu'il y ait une véritable réflexion pour qu'il y ait moins de contentieux.
Un exemple, par exemple
Oh bah écoutez, là on en a, je peux même pas vous donner d'exemple. On a attaqué par exemple l'éolienne de Coutances, qui est peut-être l'éolienne la plus bête de France, puisqu'elle est tout près de la cathédrale de Coutances. On la voit en même temps que la cathédrale de Coutances, elle est toute seule, qu'elle produit très peu d'électricité, et elle a vraiment un impact qui est paysager, qui est très important. Et donc ça, pour nous c'est pas acceptable. Il faut vraiment qu'il y ait des lieux dans lesquels on implante les éoliennes, en ayant réfléchi à l'avance, et ces lieux sont des lieux qui sont normalement dédiés à l'industrie, puisque ce sont des structures qui sont des structures industrielles, qui ont une esthétique industrielle qui n'est pas vilaine d'ailleurs, mais qui écrase les paysages. Et ça, c'est vraiment notre préoccupation. Là on a actuellement une action pour essayer de sauver les vestiges de la carrière de la Corderie à Marseille, qui est une carrière qui date du 5e siècle avant notre ère, donc qui est contemporaine de la fondation de Marseille par les Grecs. Donc c'est vraiment l'acte de naissance de la ville de Marseille, qui est la plus ancienne ville de France. Donc c'est un patrimoine extrêmement émouvant et aussi impressionnant visuellement, avec des traces d'outils, des cuves de sarcophages à moitié dégagées. C'est vraiment l'acte de naissance de la ville de Marseille. Donc là, on essaie d'avoir un classement qui protège bien ce site, puisqu'il y a une promotion immobilière qui doit s'implanter sur ce terrain. On a beaucoup de travail.
J'imagine des cas qui viennent à vous assez régulièrement.
Voilà.
Soit des cas de propriétaires privés.
Alors ça peut être des propriétaires privés. Alors ce qu'on a aussi qui est assez intéressant, c'est un dossier concernant les tours nuages à Nanterre, qui sont des très beaux bâtiments qui ont été construits dans les années 70 par Émile Ayot, qui est un très très bel architecte, et qui d'ailleurs était labellisé patrimoine du 20e siècle. Une vision très poétique en fait de la ville, avec des fenêtres, avec des formes étonnantes, des hublots en forme de larmes, et tout un travail de polychromie par le biais de mosaïques, et puis tout un aménagement paysager. En fait, c'est un vrai ensemble urbain cohérent, et ce sont des tours qui sont reproduites dans tous les ouvrages sur l'architecture du 20e siècle. Et là, isolation par l'extérieur, donc l'idée, c'est de tout simplement supprimer ce qui fait la beauté de ces tours, c'est-à-dire de les plaquer en fait de revêtements métalliques, et de supprimer aussi les fenêtres pour des raisons, je dirais, d'efficacité thermique. Et donc on banalise, et on est en train de perdre un patrimoine qui, à l'évidence, si on le laisse vivre, si on le conserve, sera dans quelques centaines d'années quelque chose de majeur. Et qui est aussi, c'est intéressant parce que c'est du logement social, c'est dans une banlieue. Et donc nous, on aimerait montrer que le patrimoine, ça peut, enfin que la banlieue peut aussi produire du patrimoine.
Bien sûr, et c'est aussi la vie des hommes et des femmes
exactement,
qui ont vécu là,
exactement,
dans un certain territoire.
Exactement. Qui sont attachés à cette tour, et que là on peut être fier de leur beauté et de leur caractère tout à fait innovant du point de vue architectural. Alors sur le stand, on a également une très belle exposition de Claude Land sur les croisées de menuiserie anciennes, c'est-à-dire ces fenêtres anciennes qui sont justement en train de disparaître les unes après les autres sous l'effet des normes, des incitations justement pour essayer d'améliorer l'efficacité thermique des bâtiments. Et là on est en train de perdre un patrimoine finalement essentiel, parce que c'est ça qui fait la beauté très souvent d'une façade, sont les portes anciennes, les volets anciens, les fenêtres anciennes. Et voilà, donc
vous
on
êtes
a...
un peu le gardien à sites et monuments, enfin les gardiens du patrimoine, et aussi des lanceurs d'alerte en disant
voilà,
attention,
on essaie...
il faut agir.
Exactement, donc on essaie justement de choisir des dossiers qui ont une signification. On ne peut pas prendre tous les dossiers, donc on fait une sélection de dossiers pour les mettre en valeur, et ce sont des dossiers qui peuvent normalement parler à tout le monde, parce que l'isolation thermique par l'extérieur, il y en a beaucoup. Il y a d'autres ensembles comme ça du 20e siècle qui sont menacés, des ensembles aussi plus anciens, et on souhaite appuyer là où ça fait mal pour effectivement susciter la réflexion et essayer in fine d'avoir des évolutions législatives si c'est possible.
Par exemple, peut-être un exemple récent de sauvegarde, enfin de sauvetage sauvetage.
Sauvetage récent. Le site du musée de Tours, qui est l'ancienne évêché de la ville de Tours, qui est un lieu absolument magique, avec un parc, un ensemble 18e exceptionnel, qui devait être complété par une aile contemporaine de très mauvaise facture, et alors que c'est un lieu vraiment qui est parfait, auquel il ne faut rien ajouter. Donc là, effectivement, la menace d'un procès, alors ça on est très content de ça, parce que du coup ça nous coûte rien, a suffi à ce que ce projet soit abandonné. On a aussi obtenu la conservation, donc à Nancy également, pour l'agrandissement du musée Lorrain, l'abandon de la destruction d'une écurie du 18e siècle. Donc là, on a transigé, il va y avoir une grande barre en verre, et on a négocié avec le maire que finalement la barre soit moitié moins longue, de manière à préserver une écurie du 18e. Et récemment, à Orléans, on a réussi à sauver presque toute une rue, 15 maisons allant de la fin du Moyen-Âge jusqu'au 18e, 19e siècle, qui avaient échappé au bombardement d'Orléans, qui devait être totalement démolie, 17 maisons. Et là, on a aussi transigé, on a pu en sauver 15 sur 17. Et donc, elles seront réhabilitées. Et finalement, voilà, c'est très bien pour Orléans, pour les Orléanais, puisque c'est une ville quand même martyre de la Seconde Guerre mondiale. C'est quand même un petit peu paradoxal de recourir à des méthodes que normalement on n'emploie plus, qui est de raser tout le côté d'une rue. Donc voilà, donc c'est vrai que les procès permettent aussi de négocier. Versailles, par exemple, on avait attaqué le PLU de Versailles, et on a obtenu en fait la sauvegarde de toute la partie sud du parc, donc terrain des Matelots, des Mortemais et de Pion, ça c'est la partie ouest, qui devait être équipée de routes, d'infrastructures urbaines,
paraît assez étonnant.
Ce qui paraît tout à fait étonnant.
C'est quand même Versailles.
Alors c'est Versailles, mais ce sont des terrains qui ont été affectés à l'armée en 1906, mais qui auparavant appartenaient au parc de Versailles. C'est d'ailleurs Claude Mur, sur des murs qui ont été construits par Louis XIV, donc c'est cet ensemble-là, et qui a été affecté à différents ministères. Et aujourd'hui, les ministères se désengagent progressivement, vendent des biens qui leur sont affectés, et récupèrent, et c'est ça qui est très malsain, une partie du fruit de ces ventes. C'est pour ça qu'ils sont tout à fait enclins à vendre ces biens-là. Et donc, quand le PLU offre des possibilités de construire, évidemment, l'aliénation par l'État combinée aux possibilités de construire, c'est absolument terrible. Et en plus, quand on crée des infrastructures de transport, des nouvelles routes, tout ça en région parisienne peut aller très très vite. Donc là, on est très content de ça, et ça a été une manière finalement de discuter avec le maire, et on s'est aperçu que en réalité, en expliquant les choses, on peut tout à fait trouver des compromis.
Et on peut s'arranger aussi à l'amiable, ça arrive.
On peut s'arranger à l'amiable, et c'est vrai que ces grands procès assez médiatiques, on a attaqué la Grande Roue par exemple.
Voilà. On aime cette Grande Roue.
Ah non, on l'aime pas. On n'aime pas cet endroit-là en tous les cas. On aimerait qu'elle soit déplacée. Elle est en plein dans la perspective de Le Nôtre. Pour nous, c'est vraiment un non-sens de la mettre à cet endroit-là. S'il y a un endroit à Paris où il ne faut pas implanter une Grande Roue, c'est là.
Après, c'est vrai que tout à Paris est patrimonial, j'allais dire. Donc c'est difficile parfois.
Non. La Paris, il y a des fuseaux de protection justement de ces grandes perspectives urbaines, et qui sont protégées par le PLU. Et là, il y a évidemment un fuseau majeur qui part du Louvre et qui va jusqu'à la Défense. De venir intercaler un rideau de fer.
Ça vous gêne?
C'est pas que ça nous gêne, ça nous gêne, et en plus c'est contraire aux dispositions du PLU. Donc voilà, on aimerait, et puis en plus la Grande Roue, c'est quelque chose qui profite d'un flux touristique qui est existant et qui ne crée pas un flux touristique. Donc on aimerait qu'elle soit implantée dans un quartier où elle puisse faire venir des touristes qui n'y venaient pas. Ça, ça aurait un vrai sens. Voilà. Voilà, ce sont des procès où personne en fait ne veut aller, personne ne veut attaquer Marcel Campion. Bon, nous, on y va, et après, sur d'autres dossiers, effectivement, on peut transiger, s'entendre, discuter, même parfois la discussion suffit. Et puis donc on a un réseau départemental de délégués qui mènent des actions localement et que nous appuyons.
Bah, merci beaucoup.
On On quitte le stand de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France pour se diriger vers la dernière étape de ce petit tour au Salon du patrimoine culturel. On s'arrête devant le stand de la start-up Coméon, car quand on parle mécénat et sauvegarde, il faut bien se dire que tout le monde, à l'échelle de ses moyens, peut œuvrer pour la préservation de notre patrimoine. Et cela passe de plus en plus par le financement participatif. Notre petit tour au Salon du patrimoine culturel se termine ici. Le salon est encore ouvert tout ce week-end, ce samedi et ce dimanche au Carrousel du Louvre. N'hésitez pas à vous y rendre pour découvrir de merveilleux projets de préservation et de restauration, des idées innovantes ainsi que des savoir-faire ancestraux. Ici, le passé et le futur dialoguent pour s'accorder au service du beau et de la mémoire. Tout le programme à retrouver sur patrimoineculturel.com avec également le hashtag SIPC2017 si vous voulez partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Ce samedi donc jusqu'à 19h et dimanche demain, ouverture de 10h à 18h. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. C'était Art Interview sur Art District avec Julie Chaise-Martin et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte culturelle.